Soyez bénis, chacun, chacune. Je vais continuer le message avec le livre de Claude Oud, Découvrez et développez votre potentiel. Pour faire rapide, le potentiel, c'est ce que Dieu nous a mis en nous et ce que Dieu veut qu'on découvre et qu'on développe, les dons que Dieu nous a donnés pour le service de la communauté, pour le service de l'Église. Donc aujourd'hui, je vais commencer le message avec quelques lignes d'un court courriel adressé à un pasteur. C'est un courriel très simple et il pourrait représenter une multitude de personnes à travers le monde. Je commence. Cher pasteur, j'ai cherché à tellement d'endroits, dans tellement de trucs pour trouver le bonheur. Mais rien n'était jamais aussi bon que ça promettait de l'être. J'ai une super carrière, un mari que j'aime et qui m'aime, des beaux enfants et plusieurs des choses que j'ai rêvées quand j'étais plus jeune. Mais je suis frustré et souvent abattu et triste. Où est ma joie ? Je veux simplement être heureuse. Pouvez-vous m'aider ? Ma réponse est oui. Oui, je peux vous aider. Non par moi-même, mais en vous présentant un enseignement biblique et pratique que devrait être la joie réelle pour un chrétien. C'est un sujet qui nous touche tous et qui mérite qu'on s'y attarde en tant que croyant. L'Église des Seigneurs doit être le lieu où chacun doit exprimer son plein potentiel de joie par la grâce de Dieu. Il faut comprendre que cette joie est totalement inaccessible sans l'assistance, la présence, l'amour et le salut possible en Jésus-Christ. Il est important de comprendre que c'est en Jésus seul que nous pouvons découvrir et décupler la joie de notre vie quotidienne. Pour développer le thème de la joie, les commentateurs bibliques prennent souvent la lettre de Paul aux Philippiens, que l'on surnomme l'épître de la joie. Il s'agit du texte biblique contenant le plus de mentions relatives à la joie et au bonheur. On y trouve 19 fois le mot joie ou ses variantes, telles que réjouissez-vous, rendez ma joie parfaite, soyez toujours joyeux. Pourtant, lorsque l'on étudie son contexte, cette lettre aurait tout aussi bien pu s'intituler autrement. La lettre de Paul aux Philippiens et en sous-titre, l'épître de rien ne s'est passé comme prévu dans ma vie. Ou je m'attendais vraiment pas à ça. Ou encore, je ne sais pas comment m'en sortir. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui m'arrive ? Voilà des sous-titres qui auraient pu être la lettre aux Philippiens. Le contexte humain entourant la rédaction de cette lettre n'a rien d'idyllique. C'est un contexte d'incarcération, d'intimidation, d'incertitude et d'incompréhension. C'est un contexte de tension et non de triomphe, de menaces et non de miraculeux, de solitude et non de solidarité. Ce n'est pas un contexte de plénitude ni de paix, mais plutôt un paradoxe où Paul expérimente pourtant une joie profonde et nous explique pourquoi et comment. Depuis le début de son ministère de prédicateur, Paul avait un rêve, communiquer l'Évangile au cœur de Rome, le centre du monde. Paul était passionné par l'appel d'implanter une église d'impact dans cette ville, une église dont le rayonnement dépasserait largement les frontières de Rome et mènerait à un réveil spirituel jusqu'à l'extrémité de l'Empire tout entier. On le voit dans la lecture de Paul Romains 1, versets 13 à 16. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer ainsi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Pendant plusieurs années, Paul a tout fait pour rejoindre la capitale de l'Empire. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous découvrons le détail de ce périple qui conduit Paul d'Israël jusqu'à Rome, 4 années avant d'écrire la lettre aux Philippiens. Paul avait d'abord vécu une première incarcération de 2 ans dans la prison de Césarée, au nord d'Israël. Un emprisonnement injuste, reposant sur des accusations perfides, mensongères, qui seront finalement toutes retirées, faute de moindre fondement. À la sortie de prison, Paul fut aussitôt convoqué à Rome pour y être rejugé. Cette fois-ci, il était convaincu de pouvoir enfin rejoindre Rome et accomplir son appel. Toutefois, une nuit de tempête en plein cœur de la mer Méditerranée, ou à bord d'un navire qui devait le conduire en Italie, l'apôtre fit naufrage. Paul frôla la mort avant d'échouer sur l'île de Malte avec d'autres survivants. Malte, c'est au sud de la Sicile. Paul resta sur cette île pendant 3 mois avant d'être finalement capable d'embarquer de nouveau pour une traversée en direction de Rome. À peine arrivé, celui que l'Empire considérait comme l'ennemi dangereux et une menace pour l'ordre public fut de nouveau incarcéré. Encore 2 ans, dans une prison souterraine, enchaînée à un garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour Paul, le rêve de pouvoir s'adresser à des foules et influencer un colisée entier était balayé par la réalité de sa cellule insalubre. Je fais une aparté et regardons la situation de Paul. Cette vision inachevée de l'apôtre représente toutes ces situations de nos vies sur lesquelles nous avons imaginé un scénario tellement différent des dénouements que nous subissons. Que ce soit dans nos études, notre travail, nos investissements financiers, notre famille, notre mariage, nos enfants, notre église, notre appel ou dans nos relations interpersonnelles. Nous expérimentons tous nos propres prisons romaines de désillusion. Rome avait peur de Paul, peur de son influence et de son message d'espoir, de libération qu'il annonçait. Rome fit donc tout ce qu'il pouvait faire pour le briser, en le confinant dans des conditions équivalentes à des tortures psychologiques. Les historiens nous disent que dans ce type de particulier d'emprisonnement, les gardes se relayaient auprès du prisonnier toutes les 4 heures. Et ce n'était jamais le même gardien, afin que celui-ci ne soit pas sous l'influence de Paul qui donnait des enseignements. Paul n'avait aucune vie privée. Toute dignité lui était enlevée, toujours quelqu'un à ses côtés, pour manger, pour dormir, pour aller aux toilettes, se laver. Paul était violé dans son intimité, chaque instant humilié et oublié. Il se savait condamné à mort, victime d'un système judiciaire corrompu. Humainement, il aurait dû être rempli d'amertume, de frustration, de colère, d'angoisse et de dépression. Pourtant, sous l'inspiration du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, c'est là que Paul écrivit l'épître de la joie. C'est à cet endroit d'illusions perdues que l'Esprit de Dieu inspira l'apôtre Paul pour écrire Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je voudrais souligner, dans cette saison de paradoxes et d'épreuves, de douleurs, des questionnements sans réponse, des menaces, l'inconnu, Paul nous défie aujourd'hui à vivre une vie chrétienne empruntée de joie. Je rappelle cette vérité des pages de l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance, à vous et moi aujourd'hui. La joie du Seigneur sera notre force. Néhémie, chapitre 8, verset 10. La joie est une grâce. Dans le texte original, le mot « joie » utilisé par Paul est tiré du grec « kala » et partage la même racine que le mot « grâce » de « charis ». En d'autres termes, la joie est une grâce. C'est un don de Dieu. La joie authentique qui vient de Dieu se matérialise par une grâce spéciale, différente. C'est une grâce remarquable et remarquée. Elle dépasse de loin le cadre limité des capacités humaines. En fait, l'apôtre Paul nous offre une clé qui peut et doit changer notre vie. La source de joie n'est pas circonstancielle. Elle est le produit d'une grâce intérieure qui habite et irradie chaque personne qui entretient une relation avec Dieu. Pourtant, la joie, qui est une grâce de Dieu, nous est facilement volée. En réalité, la joie n'est pas un cadeau de la vie. C'est en fait la somme de nos choix de vie. Donc, pour trouver, développer et maintenir notre joie, nous devons connaître et nous protéger contre les voleurs de joie. Il y a des voleurs de joie. Et Paul en identifie 5. Il y a nos pertes. En 2, la petitesse humaine. En 3, le péché. En 4, la pression et problèmes du quotidien. Et en 5, les peurs et préoccupations pour nos proches. Je vais détailler maintenant nos pertes. Paul avait connu plusieurs pertes tout au long de son voyage. Son autonomie, sa liberté, sa sécurité, son identité, son travail, ses accomplissements et certains de ses rêves, ses aspirations les plus élémentaires et les plus nobles, lui avaient été arrachés. Nous devons protéger notre joie en la dissociant, c'est-à-dire en la séparant de ce que nous possédons. Cette joie, où est-elle ? Notre joie est en Christ seul et dans son salut offert à la croix. Rien ne pourra nous dérober cette source de joie. Elle est fondée sur ce que nous ne pouvons pas perdre et qui peut nous être arraché ou enlevé. Aucune circonstance ne peut altérer notre salut. Son amour pour nous, sa présence, ses promesses, son pardon, sa grâce, sa fidélité et notre éternité assurée avec lui. Notre joie est protégée et renouvelée lorsque chaque jour, dans la prière, par la lecture, la méditation de la parole, nous nous focalisons sur ce que Jésus-Christ a rendu possible. En deux, la petitesse humaine. Philippiens, chapitre 1, verset 17. Certains sont jaloux de moi et cherchent mon malheur. L'apôtre parle de tous ceux qui se réjouissaient de ces malheurs et qui étaient animés d'un esprit de dispute, de jalousie et même de vengeance. Ces personnes avaient oublié tout ce que Paul avait accompli pour Dieu et pour elles-mêmes. Nous devons protéger notre joie en prenant de la hauteur face à la petitesse, la médisance, la méchanceté et la bêtise qui menace de fissurer notre réservoir de joie. Relâchez-les, et c'est vous qui serez libérés. Choisissons de rester focalisés sur les belles et bonnes relations de notre vie, sur les bontés, la noblesse, la gentillesse et la générosité des gens qui nous entourent. Dans ce monde, choisissons de regarder les gens bien et la beauté des chrétiens authentiques qui nous entourent. En 3, le péché. Philippiens, chapitre 3, verset 19. Ils sont fiers, ceux qui devraient faire leur honte. Ils sont fiers de ceux qui devraient faire leur honte. Le péché est un des voleurs de joie. Il peut s'agir du péché d'un autre qui nous a fait subir quelque chose, ou le péché de nous-mêmes, celui que l'on couvre, celui que l'on veut cacher, le péché secret qui vole et annihile la joie. Une des choses qui procure de la joie, c'est une vie droite devant Dieu. Je ne vous parle pas d'une vie de perfection, mais d'une vie d'intégrité. Une mesure de joie infinie est donnée à la personne qui a une conscience pure devant Dieu. La repentance, est aussi une source de joie profonde. Mais l'endurcissement, le déni et les péchés cachés, eux, tuent la joie. Nous éprouvons une joie limpide et débordante à être dans la vérité, vivre dans la droiture, honorer ses engagements, être fidèle envers son conjoint ou sa conjointe, dans nos enfants, être intègre dans nos affaires et avec notre Dieu, comme si chaque jour était celui où nous nous présentions devant lui, devant notre Dieu. Ce n'est pas une mission impossible. Là où le péché abonde autour de nous, sa grâce surabonde en nous. Romains 5, verset 20. Balayons les fausses grâces qui sont trompeuses, qui tolèrent la souillure. La grâce n'est pas un passeport pour le péché, elle est plutôt une puissance contre lui. Dans le premier épître de Jean, nous lisons au chapitre 4, verset 4, « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Dieu nous donne les forces et les capacités de vaincre chaque tentation et d'avoir une vie pure et belle. Reconnaissez ce qui est mal, repentez-vous, puis goûtez à une joie qui vous était jusqu'alors inaccessible. En 4, les pressions, les problèmes du quotidien. Lecture Philippiens, chapitre 4, verset 12. J'ai dû apprendre à être satisfait en toutes circonstances, dans l'abondance comme dans le besoin. Paul était dans sa prison à Rome, porté une pression qui aurait pu l'écraser. Cloîté dans le couloir de la mort, il attendait un procès truqué. Chaque jour, il affrontait des défis, accompagnant son handicap physique et ses problèmes de santé sévères. Il subissait la pression exercée par les dissensions, divisions et les tensions au cœur des églises qu'il avait implantées. Il portait chaque jour dans son corps le poids de l'épanouissement spirituel d'une multitude qu'il avait conduit au Seigneur. Paul nous rappelle que, quelles que soient les circonstances auxquelles nous faisons face, nous devons apprendre ou réapprendre à trouver notre joie en Dieu. Nous devons fixer nos yeux, notre cœur, nos pensées et nos prières sur notre Dieu, sur Christ. Rappelons-nous de sa fidélité quand il a agi dans notre vie. Toutes les fois où il nous a fortifiés, guéris, relevés, où il a transformé nos tempêtes en témoignages. C'est ainsi que nous retrouverons, protégerons ou renouvellerons sa joie en nous. En 5, les peurs et préoccupations pour nos proches. Philippiens, chapitre 2, verset 27. Mon frère Épaphrodite était malade et aux portes de la mort. Paul est comme vous et moi, préoccupé par la situation de santé de chacun, de personnes proches qui lui sont proches. Paul s'inquiète pour la santé d'Épaphrodite. Je rappelle, Épaphrodite a été envoyé par l'église de Philippe auprès de Paul pour y être à son service, et ce après avoir découvert qu'il était emprisonné à Rome. Parfois, ce n'est pas notre propre situation qui vole notre joie, mais celle d'un proche. Un fils, une fille loin de Dieu, un proche atteint d'un cancer, la souffrance actuelle ou l'avenir inquiétant d'une personne que nous aimons. Dans Philippe, chapitre 1, versets de 9 à 11, Paul nous propose quatre directions de prière pour revivre une joie authentique lorsque nous avons peur ou sommes préoccupés par nos proches. Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Bien, je vous propose, comme Paul, de prier. Prions pour nos proches afin que leur amour pour Dieu et celui qu'ils ont pour eux-mêmes augmente. Certains ont même perdu le goût de vivre, mais prions avec joie pour que le Seigneur augmente l'amour dans leur cœur. Prions afin que les gens de notre entourage fassent les bons choix. Prions afin qu'ils grandissent dans leur sincérité, leur droiture et leur compréhension des plans de la volonté de Dieu pour la vie abondante que leur a préparée. Prions par-dessus tout pour qu'au cœur même de la situation difficile qu'elles traversent, les personnes de notre entourage rencontrent ou reviennent au Seigneur Jésus. Nous devons connaître Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais nous devons aussi connaître et surtout pratiquer. 1 Jean 3,16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Et Jésus nous a dit ceci dans les évangiles. Dans Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ouais. On va prier maintenant pour conclure. Père, renouvelle en nous ce cœur qui ne se ferme pas malgré la souffrance. Permets à ce cœur de ne pas tourner le dos à l'espoir, même si nous ne voyons pas de changement dans l'immédiat. Permets-nous de croire et d'espérer, parce qu'ayant reçu ton amour, nous choisissons de l'offrir à notre tour avec joie, malgré la douleur de nos prières, qui semblent être restées en salle d'attente. Nous avons la conviction que chaque prière a été entendue et que toi, Dieu, tu agis. Père, apprends-nous seulement à te remercier pour ce que tu as fait pour nous à travers l'œuvre de Christ à la croix. Apprends-nous à donner à notre tour du temps, du talent, de l'énergie, de la patience et de l'écoute à ceux qui ne connaissent pas. pas Jésus-Christ. Donne-nous cette joie, Seigneur. Donne-nous cette joie dans nos cœurs. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Merci, soyez bénis chacun, et que l'Esprit Saint nous guide.